Sud Radio 10h midi, débat.
Les débats aujourd'hui avec Lucas Véran, étudiant adjoint au maire de Neuilly. Bonjour.
Bonjour
Virginie
Valérie.
Leguet, journaliste, éditorialiste politique. Bonjour Virginie.
Bonjour, bonjour
Alex
à tous.
Darmon, vous êtes journaliste politique et vous officiez sur la chaîne Les Indécis, une chaîne YouTube.
Exactement.
Absolument.
Bonjour
vous animez
Valérie.
Des débats politiques.
Ouais, voilà.
Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Comfluence et co-président
bonjour
de
Valérie,
PNL.
Bonjour Valérie,
bonjour à tous. Bonjour à vous, ravi de vous revoir tous, première
plaisir
semaine.
Partagé.
C'est la rentrée. De plus en plus de Français approuvent le pass sanitaire. 64% d'entre eux s'y disent favorables. C'est un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. Le même sondage dans le Figaro ce matin, sondage Odoxa, nous dit que c'est 67% des Français qui y sont favorables. On va parler de la rentrée scolaire, les cours de récré dégenrés. Je ne sais pas si vous avez vu ce petit extrait de cet enfant qui se plaint auprès du maire de Lyon d'avoir une cour où il ne peut plus jouer au foot. Et puis on peut parler des uniformes et le président de la République donc à Marseille qui a adressé une petite vidéo de rentrée qu'on va pouvoir commenter avec vous. Vos coups de cœur, vos coups de gueule, Virginie ?
La visite du président de la République à Marseille m'a fait penser que cet été, ce sont les rappeurs marseillais qui ont squatté tous les classements et qui ont fait danser toute la France. Et je voulais donc rendre hommage à ces rappeurs marseillais, notamment à une chanson que j'ai eu l'occasion d'écouter plusieurs fois qui s'appelle Petrouchka de Soso Maness, et dire qu'on a beau jeu de dire que Marseille est une ville de tiers-monde où les gens se laissent aller, où il ne se passe rien. C'est pas vrai. Il y a des très forts courants musicaux, il y a des très forts courants artistique, littéraire, théâtraux, et que Marseille est une ville très vivante. Et je dis à cette occasion tout mon amour pour Marseille, qui est une ville que j'aime énormément et où j'ai l'occasion de vivre il y a quelques années.
Ça peut être dur en même temps. C'est-à-dire qu'on peut, on peut, bien sûr. Il peut y avoir effectivement une scène artistique, une ville extrêmement agréable, dynamique, et en même temps, écoutez ce qu'on avait ce matin dans le zapping, ce prof rencontré par Emmanuel Macron, écoutez aussi le côté sombre de la ville.
Oui, c'est une ville noire et blanche.
Dans la zone, avant la drogue, ça fait TP, ça crie aha. Et dans le hall, je suis sous piche, je suis sous terre, sans la vodka. Ouais, on a, il y avait deux sons de prévu. Il y avait la chanson Votre coup de cœur de Petrouchka, de Soso. Alors remets-la. Notre... Dans la zone, avant la
drogue, ça fait TP, ça crie 38 millions de vues. Je suis sous piche, je suis sous terre, sans la vodka. Regardez, voilà.
Moi, j'écoute ça.
Lucas et Alex.
Ouais, un petit peu, ouais.
Un petit peu.
Ouais, ils sont très forts, les Marseillais,
très
pour
forts,
le rap.
Ils sont très forts.
Il faut dire que Jul, c'est un artiste incroyable. Ouais, ouais, force de travail, etc.
Et puis même l'ancienne génération
enfin,
aussi.
Plein,
la kiffance.
Hein.
La kiffance.
Moi, j'adore. Je suis un peu plus vieux que certains d'entre vous, mais IAM, etc., c'est une ambiance extraordinaire.
IAM, c'est magnifique.
Bien sûr.
Et ben moi, j'aime pas.
Bien,
et j'ai pas honte de le dire. Voilà, j'ai jamais accroché, je ne comprends pas cette musique. Je suis une vieille réac.
Il en fallait une.
Non, c'était le son du zapping de ce matin. Je ne sais pas si on l'a de cet enseignant qui racontait les conditions quand même dans lesquelles les élèves travaillent. C'est quand même
200 écoles sur plus de 400 qui ne sont pas en état de fonctionner normalement.
Écoutez.
35 degrés à partir du mois de mai selon les jours, on a des enfants qui saignent du nez, qui peuvent tomber dans l'école, on est obligé de rafraîchir, 35 degrés c'est très chaud pour une classe. L'hiver en effet on a de nombreux jours où on vient avec le blouson en classe, le bonnet, et on a des cafards, des punaises de lit, on a beaucoup de choses. Quand on grandit dans des endroits comme ça, on grandit avec, je pense, dans l'idée qu'on mérite ça peut-être, et que on atteint un âge de l'adolescence, on peut choisir des chemins différents aussi.
Voilà. Donc c'est bien Marseille, mais c'est pas bien aussi.
Bien sûr, mais je voulais juste m'élever contre le portrait misérable qui mérite
raison.
Autre chose que ces apitoiements de dernière minute, parce que je rappelle que Emmanuel Macron, quand Jean-Louis Borloo lui a présenté son plan de banlieue, l'a écarté d'un revers de main et qu'il se souvient fort opportunément à 8 mois de la présidentielle que tiens, tout d'un coup, il y a peut-être des choses qu'on pourrait faire un peu spectaculaires pour Marseille. C'est le énième déplacement et le énième plan de responsable politique. On va voir s'il est vraiment suivi.
Et Virginie, ce qu'on peut craindre quand même, c'est que si Emmanuel Macron sort son porte-monnaie et dépense...
Enfin, le porte-monnaie des Français.
Oui, tu as tout à fait raison. Le porte-monnaie des Français et dépense à chaque déplacement 1,5 milliard, ça va nous coûter très cher, la campagne d'Emmanuel Macron.
Bon, on pourra en redire...
On peut jouer au Père Noël à bon compte.
Jérôme, c'est un coup de cœur.
Oui, un coup de cœur, on entendait cet enseignant qui parlait des conditions dans les écoles de Marseille. Moi, j'avais un coup de cœur pour une association qui est formidable, qui s'appelle Énergie Jeune, qui est une association constituée de bénévoles, qui est reconnue d'utilité publique et qui intervient dans les collèges, en zone prioritaire. Alors, qu'est-ce que c'est Énergie Jeune? C'est l'objectif réussite, la capacité en fait à donner aux enfants les moyens de mieux apprendre. C'est pas du tout de l'enseignement, c'est de la méthodologie. C'est comment est-ce qu'en fait on met les enfants en capacité d'apprendre, c'est-à-dire se doter de projets personnels, apprendre à mieux dormir, apprendre à se fixer des objectifs, par exemple préparer son cartable la veille, etc. Chaque élève en fait adapte à sa situation personnelle et à ses problématiques personnelles. Et c'est quelque chose qui est basé sur les neurosciences. C'est des modules de vidéos qui sont très très courts et en 3 séances ils ont des résultats absolument exceptionnels. Et c'est vraiment un truc qui marche. Alors malheureusement aujourd'hui il n'y a que 100 000 élèves qui sont suivis, mais c'est une formule qui est en train de se répandre et qu'il faut vraiment soutenir parce que il y a des résultats absolument incroyables. On commence à en parler, les médias s'en font l'écho, mais il faut encore des moyens, il faut des bénévoles et il faut amplifier le mouvement parce qu'en zone prioritaire, il y a des enfants qui ont besoin de comprendre que rien n'est joué d'avance et que la capacité à porter leur attention et à apprendre, c'est en eux que ça se joue et pas uniquement dans l'apprentissage qu'on leur délivre.
Bon, donc ça s'appelle Énergie Jeune, donc
recherche des bénévoles.
Très belle initiative, c'est dommage que l'éducation nationale ait pas les moyens de s'en occuper et de le faire aussi.
C'est un peu différent, Valérie. C'est-à-dire qu'en clair, c'est pas le boulot de l'éducation
c'est
nationale.
Les méthodes, j'ai bien compris.
C'est les méthodes, exactement. Mais c'est sûr, il y a un partenariat avec l'éducation nationale.
Merci. Alors on se retrouve dans un petit instant après le journal sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, les débats avec Lucas Véran, étudiant adjoint au maire de Neuilly, passionné de politique. Virginie Leguet, journaliste, éditorialiste politique. Alex Darmon, journaliste politique. Vous présentez également, vous êtes à la tête d'une chaîne YouTube, Les Indécis, une chaîne de débats politiques. Et Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Comfluence et coprésident d'Opinion Valais. On va parler du pass sanitaire. Visiblement, les Français sont convaincus. 64% approuvent le pass sanitaire, selon un sondage IFOP Fiduciel pour Sud Radio. Rentrée scolaire, les cours de récréation dégenrés, l'uniforme, quelle priorité pour l'école? Et puis on reviendra sur la visite d'Emmanuel Macron à Marseille et on parlera de cette petite vidéo de rentrée. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Alors on continue notre tour de table. Alex, vous, c'est un coup de cœur?
Coup de cœur sur un reportage hier sur France 2, dans complément d'enquête, sur la machine à fric des fake news. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous l'avez regardé. Franchement, c'est un super reportage qui a été réalisé par... D'abord, sur la forme, c'est un bon reportage parce que c'était une rédac citoyenne qui a participé et qui a travaillé autour de 2 journalistes, dont une youtubeuse, Aude What the Fake. Et en fait, c'était vachement bien parce que elle a tout repris depuis le début avec sa rédaction. Ils ont construit un reportage et en fait, ça fait peur. Ça fait peur ce qu'ils racontent dans ce reportage parce que vous vous rendez compte que des marques, des gens, c'est le cas du documentaire Hold Up notamment, font énormément d'argent sur des fake news et qu'on n'a aucun moyen de lutter contre cela.
Mais où est-ce qu'ils gagnent d'argent?
En fait, sur les partages, quand vous lisez des informations sur le web, typiquement, sur les publicités, ils vont chercher des publicités sur leur page web. Et donc, ça rémunère énormément. Il y avait un homme notamment qui racontait qu'il gagnait plus d'argent en publiant, en inventant ces fake news, près de 200 000 euros par mois, qu'en travaillant.
Voilà. Il faut dire le succès du documentaire qui ne s'appelle pas un documentaire, Hold Up.
Oui,
il faut dire le
c'est
succès.
Ça. Mmh. Exactement, ouais. Exactement, c'est ouais. Ça. Et ouais. Il parlait, ils ouvrent d'ailleurs. Ils ouvrent ce reportage avec le documentaire et son auteur, et où le mec assume complètement, quoi. Complètement.
Et quand vous dites des marques, est-ce que, à dessein, il y a des entreprises qui utilisent la fabrication de fausses nouvelles pour diffuser leur influence?
C'est ce qui est expliqué dans le reportage. Ouais. Elle va voir Carrefour, notamment. Ce qui est terrible, c'est que quand elle va voir Carrefour et son PDG qui est Bompard, il n'est même pas au courant, il sait même pas de quoi on lui parle en fait. Ouais. Donc c'est ça qui est très grave, c'est qu'on est tombé dans un truc qui est une certaine normalité qu'on n'arrive pas à lutter contre et qu'on sait pas comment lutter contre. Et c'est un peu ça aussi le message du documentaire du reportage qui est vraiment très bien fait.
Et puis, il y a probablement des arrière-pensées commerciales chez tous ceux qui participent et qui donnent des publicités autour de ces objets-là et qui se fichent bien de ce qu'il dit réellement.
Du fond et de ce qu'il dit. Exactement. Jérôme Ripoul, vous l'avez vu ?
Non, j'ai pas vu. J'en ai entendu parler parce qu'effectivement, il avait été mis en avant les jours précédents, mais je l'ai pas vu. Je vais le regarder parce que c'est intéressant de voir que des marques sont concernées et que leurs PDG sont pas du tout associés à ce genre de décision. Ça me laisse quand même pantois, quoi, d'entendre que Bompard sa société est impliquée, qu'il ne soit pas au courant. Donc je pense qu'il y a quand même là aussi des déontologies à mettre en œuvre et on voit qu'on en est un peu au balbutiement sur la capacité à filtrer ces infos.
Le problème c'est comment faire pour filtrer, vraiment je pose la question.
Parce qu'on va vous dire liberté voilà. D'expression, on peut
le libre arbitre et surtout la capacité de discernement du citoyen. Moi j'ai été impressionné cet été, j'étais en vacances avec des amis, niveau intellectuel supérieur, il y a pas de doute, c'est des gens qui sont agrégés et donc qui connaissent les infos et ils m'ont diffusé une information qui était fausse.
Bien sûr.
Concernant un politique et la relation d'un politique avec une vedette. Et cette info a tourné sur les réseaux sociaux et a acquis de la valeur. C'est-à-dire qu'en clair, elle est devenue réalité. C'était pas Xavier Bertrand. C'était Christophe Castaner, en l'occurrence.
Jérôme, il est quand même vrai que ceux qui regardent les réseaux sociaux ne font aucune différence entre ce qui est un média officiel et les réseaux sociaux. Ils considèrent
Virginie,
que c'est
difficile
et que tout
fois.
Tout.
Oui, et aujourd'hui, on vous explique aussi que tout ce qui est média mainstream, dont nous faisons, dont on considère qu'on fait partie, ment et est manipulé par.
Oui, c'est assez.
Et que ce que disent les réseaux sociaux est plus vrai que ce que.
C'est ce que disent les témoins dans le reportage hier. Il faut que les médias mainstream disparaissent parce qu'ils ne disent pas la vérité. C'est vraiment leurs mots, leur mot complet, quoi. Il faut qu'ils disparaissent. On arrête de les écouter. On a une télé, mais ça fait 2 ans qu'on l'a plus allumée depuis la crise de la Covid.
Ah ouais, donc, la défiance est à son comble.
Mais là où je rejoins quand même un peu Jérôme Ripoul, c'est que une partie des utilisateurs de réseaux sociaux ne sont pas dupes pour autant. Il y a chaque année un sondage, un baromètre, la croix sur la confiance qu'ont les Français dans les médias. Et on remarque assez bien que même s'ils consomment énormément les réseaux sociaux comme source d'information, les Français n'ont pas confiance en eux. C'est-à-dire qu'il y a toujours la radio. voilà. Donc certainement vous en partie, Valérie, qui génère de la confiance. La presse écrite et la télévision un peu moins. Et les réseaux sociaux arrivent loin derrière. Mmh. Mais en fait, il y a une asymétrie entre la consommation de l'information et la confiance que vous donnez dans cette information.
On voit en tout cas ce qui s'est passé sur le Covid, ce que ça a pu générer de divisions.
De déclarations folles.
Ça, c'est évident. Mais
que les gens prennent au pied de la lettre.
Ça va tellement vite sur les réseaux sociaux.
Les antagonismes entre les médecins et les épidémiologues ont été tels qu'ils ne savent plus en fait qui croire et quelle est la bonne information.
En tout cas, ça a généré...
Est-ce que je peux dire que quelquefois aussi, on a des réalités qui sont tellement incroyables qu'elles percutent un peu notre bon sens.
Oui.
On va parler de Macron avec le portrait de McFly et Carlito, mais on vous dirait que c'est une fake news, ça pourrait aussi passer. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même une intrication entre la réalité, le possible, l'impossible, qui devient telle que ça devient difficile quand même de faire du bon discernement.
C'est vrai.
Mais
voilà. Le problème, c'est comment lutter contre ces fake news et contre les propagations de fake news.
Ah oui, c'est oui. ça. Parce qu'il y a une grande hypocrisie, et c'est un peu la même question, vous avez raison, que par exemple l'anima sur les réseaux sociaux. Dire que chaque fake news, ou du moins une grande part d'entre elles, représente l'infiniment petit, c'est totalement epsilonaise. Donc si vous voulez avoir la prétention de supprimer les fake news, c'est complètement vain. Donc,
non, sauf que sur des sujets comme ceux de la santé, ça...
Et le gouvernement,
ça crée quand même des dégâts.
Vous vous doutez bien que vous ne pouvez pas réguler, les utilisateurs des réseaux sociaux, vous pouvez pas réguler l'anonymat. Ceux qui défendent l'idée de supprimer l'anonymat, très bien. Les gens ne créeront pas l'anonymat en France, mais utiliseront des plateformes à l'étranger et généreront des adresses IP à l'étranger. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup d'approximations dans la volonté d'adresser le problème et un peu d'hypocrisie parfois sur des solutions qui paraissent simples, mais qui sont en réalité très difficiles à mettre en œuvre. Mais,
un auditeur, c'est intéressant, me dit, pensez-vous que nous sommes idiots, que seul à Paris, vous avez du bon sens et de la réflexion? On n'a jamais parlé de...
Moi, je suis à Perpignan.
De Paris, Jérôme est à Perpignan. C'est pas du tout ce qu'on a dit. On peut être trompé.
L'exemple que je décrivais, ce sont des gens sincères, bien cortiqués, hein, intelligents, pas idiots, et qui sont trompés. Donc ça c'est gênant, quoi, parce qu'on peut être trompé. Il y a des publicités. Alors il y a peut-être un biais là aussi. Il y a des publicités propulsées sur Facebook ou autre. Donc ça veut dire que quand même le réseau social les valide, qui mettent en avant de faux articles du Monde.
C'est ça. Alors, alors Sylvie, je vais lire, qui dit arrêtez, vous croyez diffuser les bonnes infos en tant que journaleux, vous êtes incapable d'accepter la contradiction, vous en tête, madame l'expert, les médecins chauds sont les meilleurs. C'est pas ce qu'on dit, c'est qu'il y a un moment où il faut peut-être se poser, regarder qui dit quoi, d'où viennent les informations. La science, c'est pas une opinion, c'est pas j'aime bien machin ou j'aime bien truc, c'est-à-dire qu'il y a des études sérieuses, scientifiques, et c'est là-dessus qu'on se base. Je ne dis pas que j'ai la vérité, que je suis médecin. C'est qu'il y a un moment, il y a 5 milliards de personnes pratiquement qui ont été vaccinées. Je ne veux pas m'obstiner là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que quand on nous dit c'est un vaccin dangereux, c'est dangereux, on ne sait pas ce qu'on nous injecte.
Voilà, et puis je voudrais dire à cette dame, d'abord, que les journaleux, c'est pas très gentil et qu'elle peut parler des journalistes, mais que les médias officiels sont soumis à des règles de fonctionnement en cas de fausses informations, en cas de diffamation, auxquelles ne sont pas du tout soumis les réseaux sociaux. Donc, contrairement à ce que vous dites, chère madame, et pardonnez-moi d'être un peu précise, le média est un journal ou un média de radio ou un média de télévision qui ne peut pas dire n'importe quoi. Et s'il le dit...
Il peut être sanctionné.
Et ça, c'est des choses qui inciteraient, au contraire, à lire ces médias-là ou à les écouter avec prudence.
Ce qui me frappe, moi, c'est la violence. Cédric me dit, merci d'être des phares pour nous, abrutis, qui ne comprennent rien. Personne n'a jamais dit
pas
ça.
On dit nous-mêmes qu'on peut être trompé.
Voilà, donc, il se trouve qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Il arrive quand on a Éric Vérac, quand on a Alexandre Malafaï, quand on a des gens comme ça, qui ne sont pas d'accord. Éric Vérac est énarque. Il est contre le vaccin, il pense que ce n'est pas bien. Donc, il parle même de génocide. donc, ce n'est pas une question d'intelligence.
Par ailleurs, vous avez raison, Virginie, le CSA, dans la régulation qui encadre les médias, soumettre ces médias-là à une diversité d'opinions, par exemple, qui peuvent parfois leur arriver de lancer des blâmes quand il y a des plateaux pas assez diversifiés. Et à ça, j'ajoute tout de même que la difficulté avec les réseaux sociaux, et une part de vos auditeurs peut-être ne se rendent pas compte, mais c'est la réalité, c'est qu'il y a une exposition au mécanisme algorithmique où finalement vous n'êtes confronté qu'à l'information qui vous convient. Donc finalement, il n'y a jamais de confrontation à l'altérité en termes d'opinion, donc il n'y a jamais l'amélioration de son point de vue, ou du moins peut-être une démarche un peu réflexive. Si effectivement je ne suis exposé qu'aux informations avec lesquelles je suis d'accord, mais quel est l'intérêt du débat? Quel est l'intérêt même de la contradiction?
D'autant que ceux qui provoquent les défectus nous sont extrêmement actifs sur les réseaux sociaux, et je dirais même qu'il y a un activisme militant qui est très fort, et que donc on entend une fois, deux fois, dix fois, quinze fois, trente fois, cent fois la même chose, on finit par penser que c'est la vraie chose.
Ils sont organisés, en fait, tout simplement.
Et ce qui est terrifiant, c'est la violence. Ça aurait pu être mon coup de gueule, pardon, la violence dont sont victimes les médecins aujourd'hui, cette plainte contre François, parce que je pense que c'était important de le dire, de plusieurs médecins, parce que c'était carrément un appel au meurtre, et les médecins, les journalistes parfois sont eux aussi victimes de menaces extrêmement violentes. Donc même si c'est des gens qui évidemment ne passent pas à l'acte, c'est quand même hallucinant.
Mais les réactions des auditeurs, moi je comprends hein, que c'est, nos propos peuvent les heurter, mais ils sont là pour les faire réfléchir. Hein. Je veux dire, d'une part, on dit bien qu'on est tous rangés à la même enseigne, c'est-à-dire que en tant que citoyen, on peut être berné. Et que d'autre part, il faut s'interroger quand même sur les moyens de réguler tout ça, parce que d'un côté, effectivement, il y a un peu le fourre-tout des réseaux sociaux, d'Internet, et de l'autre, effectivement, il y a des médias qui sont extrêmement critiqués, mais qui sont contrôlés, et sur lesquels, quand tu te fake news passe, les jours après, les contredites. Et c'est pas la réalité des réseaux sociaux, quoi. Donc ça, il faut quand même l'entendre. Et puis surtout, un petit message. On est des débatteurs. Et la contradiction, c'est quand même le sel de la société, donc insulter, ça sert à rien. Hein.
François-André me dit, le Covid, c'est pas la mort, le vaccin n'en est pas un. Allez voir en Martinique, en Guadeloupe, ce qui se passe si c'est pas la mort aujourd'hui, où les médecins sont obligés de ne pas accepter en réanimation des gens de 50 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le tri se fait sur des gens de 30, 35 ans.
Je ne veux pas choquer cet auditeur, mais 80% de ceux qui sont en réanimation aujourd'hui, ce sont des non-vaccinés. Qu'ils le veuillent ou non, ce sont les chiffres.
Plus, absolument, je suis totalement sûre. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant, Lucas. On aura votre coup de gueule. Parfois, ça prend plus de temps, mais c'est pas grave, c'est intéressant. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi. Débat.
Avec vous sur Sud Radio, on va essayer de tenir le programme quand même. On va passer au coup de gueule de Lucas Véran.
Oui, coup de gueule pour la candidate à la primaire écologiste Sandrine Rousseau, qui apparemment est venue sur votre plateau hier dans le cadre de la matinale et a expliqué quand on lui a posé la question si elle était venue par quel moyen de transport, bien évidemment en voiture, mais que ce n'était pas de sa faute. Ouais. Et finalement, j'ai l'impression que cette candidate-là, au-delà de ses propos sur la sûreté nationale qui laisse un peu pantois sur le fait d'accueillir des terroristes et qui serait mieux contrôlée en France, finalement fait disparaître un peu la rationalité dans le débat, y compris sur son thème de prédilection, c'est-à-dire l'écologie. Par exemple, je me souviens, et Sonia Mabrouk lui avait rappelé, mais des propos qu'elle avait tenus sur la question de savoir qu'elle préférait, par exemple, des femmes qui jettent des sorts, des sorcières, dit-elle, par rapport aux hommes qui construisent des EPR. Donc, si vous voulez, pour moi, quand on doit relever un défi aussi important que la résistance face au changement climatique, l'adaptation et l'atténuation de ces effets-là, avoir des propos comme ça, en fait, qui ne se fondent sur aucun fait scientifique, elle dit, par exemple, je n'aime pas la rationalité des ingénieurs, mais précisément, à mon avis, face aux plus grands défis que l'humanité doit relever, c'est peut-être pas mal d'avoir l'ingéniosité des ingénieurs pour créer les technologies qui permettent de ne pas vivre dans une cabane pendant le reste de nos jours et peut-être d'avoir des solutions qui permettent de relever ce challenge-là.
Moi, ce que j'aime chez certains écologistes, c'est le fait ce que je dis, faites pas ce que je fais. David Béliard, de la même manière, sur un plateau, je sais plus, sur BFM, à qui on demandait, vous êtes venu comment, répond en taxi. Ouais. Et Sandrine Rousseau, écoutez-la hier, chez Patrick Roger, dans le Grand Matin Sud Radio.
Vous êtes venu en voiture, vous êtes venu comment? En voiture?
Ah bah là, je suis à Paris, j'étais en métro, et c'est vous qui m'avez envoyé une voiture
au bas
de mon immeuble ce matin, parce que c'était très tôt. C'est vous qui me l'avez envoyé, je vous rappelle.
En revanche, on ne sait pas si elle était hybride ou pas hybride, etc.
Non, ça, j'ai pas regardé le moteur.
Heureusement que Sud Radio n'envoie pas des hélicoptères, parce qu'elle l'aurait pris. Hein.
Bah oui, c'est vous qui me l'avez envoyé.
Elle pouvait remercier très gentiment Sud Radio et venir en métro comme une
incroyable.
Grande.
Mais c'est elle surtout qui a demandé. Hein, je crois, ce qu'on m'explique, c'est elle qui a demandé.
Mais non, mais surtout qu'on le fait sur les chaînes, quand on nous envoie des taxis ou quoi, on dit non, je n'ai pas mes propres moyens ou quoi que ce soit.
Complètement.
C'est elle, on me confirme que c'est elle qui a demandé une voiture, Sandrine Rousseau. Donc faites ce que je dis, faites pas ce que je fais.
C'est la faute des autres.
En même temps, on parle d'elle. C'est de la com.
Oui, c'est de la com. Enfin, c'est
la mauvaise com.
Vous avez envie de voter pour quelqu'un qui vous dit prenez le vélo, marchez, et la voiture, c'est pour les salauds.
Et pourquoi c'est doublement coupable? C'est que l'écologie, enfin, moi, je vais vous dire, je suis évidemment d'accord et plus que d'accord. Je partage tout à fait la conviction que si vous voulez, c'est un défi immense.
Majeur.
Mais finalement, avoir comme ça des candidats qui se revendiquent écologistes, qui investissent le débat public pour se présenter à une primaire, et ça décrédise complètement cette cause-là vis-à-vis de millions de Français qui vont se dire, si l'écologie c'est ça, mais je passe mon chemin, je n'en veux pas, je n'ai pas envie d'adhérer à cette vision-là.
Je suis tout à fait d'accord avec Lucas et son coup de gueule. Moi, je constate une chose, c'est que des idéologues ont pris en otage l'écologie. Et ce qui est frappant, c'est que ces gens-là ne sont pas mis en avant, ils ne se mettent pas en avant, ils ne sont pas reconnus pour les actions qu'ils développent en termes de transition environnementale, mais pour les à côté qu'ils développent idéologiques, c'est-à-dire les problématiques de cours genrées, les problématiques, là, on vient de le voir, là, de Sandrine Rousseau qui expliquait qu'il fallait accueillir les potentiels terroristes afghans, mais c'est du délire le plus absolu, quoi. Mmh. C'est des gens qui n'ont pas perdu leur logiciel idéologique, et en fait, on n'a pas en France d'écologie qui soit centrée sur les problèmes de transition écologique. Et ça, c'est dramatique. Au passage, on peut noter que les partis politiques, par ailleurs, sont assez nuls dans la reprise, pourraient reprendre, en fait, ce chantier, parce qu'on voit bien que les écolos le cornérisent complètement, quoi. Ouais. Et ça c'est effrayant. Enfin, l'extrait que vous avez passé, il est quand même illustratif d'une espèce de cynisme politique qui est incroyable.
Ouais. Mais faut, moi, qu'elle vienne en voiture, à la limite, j'ai envie de vous dire, elle fait ce qu'elle veut.
Elle dit pas écolo. Moi, ce qui me dérange plus dans cette
extrait, voilà,
c'est le fait qu'elle n'assume pas, et ça veut dire, ça fait preuve d'un certain courage en politique qui fait peur, quand même, franchement.
Et moi, je voulais dire à propos des idéologues que ce qui a fait très mal à la cause écologiste, c'est justement les idées saugrenues, et je suis vraiment très, très indulgente, des maires qui ont été élus lors des précédentes municipales, qui sont retrouvés à la tête de villes très importantes et qui ont eu franchement des idées farfelues, pour ne pas dire folles, qui ont toutes nuit profondément au sérieux de la cause écologique.
Supprimons les sapins de Noël.
Les
arbres morts, les arbres morts.
Mais simplement, en tant qu'observateur, moi je suis très curieux de voir ce qui va se passer pour cette primaire écologiste. Franchement, je suis curieux de savoir qui est-ce qui va gagner, est-ce que les gens vont se mobiliser ou pas. J'ai l'impression que ça prend pas du tout. Et j'ai l'impression que, comme d'habitude, bah, finalement, ils vont...
La machine à perdre.
Voilà, ils vont sortir, ils vont encore l'activer, la machine à perdre, et que celui qui doit gagner et qui peut représenter quelque chose dans ce parti ne sera pas celui qui arrivera en tête.
Mais qui a représenté quelque chose, il suffit de se rappeler du score de Yannick Jadot aux Européennes.
Exactement.
C'est un score sur lequel ils peuvent eux-mêmes réfléchir.
Et avant lui, de Cohn-Bendit, effectivement, Daniel Cohn-Bendit, en 2009, je crois.
Et hier, on recevait la rédactrice en chef de Challenge, qui propose une nouvelle formule et un sondage dans lequel l'environnement, l'écologie était en tête de liste des préoccupations des Français. Panel de 10 000 personnes.
Ouais. T'es très surpris. Mais ce n'est pas des solutions écologiques qu'ils nous proposent. C'est ça le problème.
Absolument. Je voulais vous faire réagir donc sur le petit message de rentrée du président de la République hier. Message pour les écoliers qui reprenaient l'école. Écoutez.
Alors face au virus qui circule, je le rappelle, il y a les gestes barrières, la fameuse chanson de nos amis McFly et Carlito, et nous devons continuer de faire attention. Et puis en cette rentrée, j'ai une pensée toute particulière pour les parents et les collègues de Samuel Paty. Personne n'a oublié, je vais ici leur dire, et cela nous rappelle combien le beau métier d'enseigner est au cœur de la nation.
Voilà, donc... est-ce qu'il y a des conseillers en com?
Vous avez collé les deux extraits. Il y a quand même
entre les deux extraits.
Ouais. Une rupture.
C'est pas dans la foulée.
Après, il s'adresse à des. Enfin, je comprends moi que ça puisse choquer. Ouais, moi, je comprends que ça puisse choquer, qu'on puisse être un peu gêné. Après, il s'adresse à des collégiens, enfin des écoliers en fait. Et bon, voilà, il fait ce qu'on disait de la com politique. Et il avait promis qu'il montrait le portrait de McFly et Carlito. Au moins, il a tenu une promesse pendant son quinquennat. C'est bien. Et voilà.
Il aurait peut-être le faire différemment, prendre la photo après,
je sais pas, je suis d'accord.
Ou faire deux séquences, il pouvait faire deux séquences, effectivement.
Parce qu'il
commence, pour ceux qui l'ont pas vu, et pour les auditeurs qui l'ont pas vu, je vais quand même décrire la scène. Il commence, il a un cadre photo, tourné à l'envers, et donc il commence son discours avec ce cadre photo, donc il a un plan assez large, on voit sa tête et on voit effectivement porté entre ses mains ce cadre photo, et quand il parle de McFly et Carlito, il tourne le cadre effectivement, puis il le retourne à nouveau. Mais on voit bien que tout ça, à l'évidence il a un conseiller com, parce qu'il n'a pas fait ça seul, à l'évidence on lui a conseillé de ne pas montrer la photo tout de suite, et à l'évidence on n'a plus de Gaulle à l'Élysée. Voilà. Bon, après, est-ce qu'il faut s'en plaindre, s'en réjouir? C'est un peu étonnant, quoi. C'est vrai que quand on met les deux morceaux bout à bout, ça peut être choquant. Alors, effectivement, il y a un effet de proximité.
La séquence n'est pas très longue, effectivement. Il y a quelques phrases entre les deux. On doit marquer une pause, mais vous pouvez réagir 0826-300-300 si vous voulez donner votre avis. Marie-Hélène nous dit Samuel Paty méritait mieux que cela. On y revient dans un instant.
Sud Radio 10h midi. Débat.
Débat, et nous parlions donc de cette vidéo de rentrée d'Emmanuel Macron. Il s'adressait donc aux jeunes pour la rentrée scolaire en montrant le portrait de McFly et Carlito. Il leur avait fait cette promesse de montrer leurs photos lors d'une allocution. Bon, c'était un petit peu plus... le cadre était un petit peu plus restreint, mais c'est une question... effectivement, Gilles m'envoie un message en me disant c'est une question de hiérarchie. C'est-à-dire qu'il aurait peut-être dû commencer par Samuel Paty. Et montrer Carlito et McFly après. Je vous cite le président du SNALC, Jean-Rémy Girard, qui dit « Je commente rarement la communication du président de la République, mais nous souhaiter une bonne rentrée avec un hommage à Samuel Paty tout en tenant le portrait de McFly et Carlito dans ses mains, je trouve ça monstrueux. » Et Marine Le Pen, elle, dit « Rendre hommage au regretté professeur Samuel Paty assassiné par l'islamisme tout en exposant la photo de deux guignols de YouTube dans le cadre d'un pari potache. Les mots manquent pour qualifier ce niveau d'indécence et d'irrespect. » Vous me disiez que vous n'aviez pas de.
Non, mais je trouve qu'il n'y a pas lieu de s'en féliciter, bien évidemment, mais il n'y a pas lieu non plus de s'en indigner. Je pense que Emmanuel Macron, dans cette adresse.
Vous êtes jeune, c'est pour ça. Vous avez
non, c'est pas une question de jeune. Non, mais je ne suis pas particulièrement consommateur de TikTok. Je ne passe pas 5 heures par jour. Non, mais c'est pas ça. Mais à un moment, la question, c'est efficacité du message. Efficacité du message et bonne destination de la cible que l'on vise. À cet égard, moi, je toujours fais partie de ceux qui ont considéré que McFly et Carlito, en ce qu'ils n'avaient pas desservi et rabaissé la fonction présidentielle, étaient un moyen de communication assez efficace pour s'adresser aux jeunes. Et puis, bon, voilà, je pense qu'on peut considérer que c'est maladroit d'avoir effectivement évoqué Samuel Paty dans cette même vidéo. Mais fondamentalement, je trouve que de la même manière, il aurait été fort regrettable qu'il n'évoque pas pour cette cible-là, cible qu'il arrive en partie à capter grâce à McFly et Carlito, le message et la mémoire de Samuel Paty. Donc finalement, si vous voulez, effectivement, j'ai du mal à comprendre l'indignation, l'indécence dont tu m'es fait écho.
Enfin, malgré Virginie, tout, quand même, il me semble que nous souffrons beaucoup actuellement dans notre société d'une hiérarchie qui n'est pas très claire entre tous les sujets. Non. Tout vaut tout. Et le président de la République a fait exactement ça. Tout vaut tout. Je vous parle de McFly et Carlito, je vous montre le portrait. Autrement dit, j'ai rempli mes obligations, mon pari est fait, ça y est, c'est réglé. C'est et au détour d'une phrase, hop, je vous parle de Samuel Paty. Franchement, la hiérarchisation n'est pas du tout à la hauteur de l'événement. Non. Samuel Paty méritait effectivement un hommage beaucoup plus appuyé, beaucoup plus simple en cette rentrée scolaire et beaucoup plus détaché de toute, je sais pas moi, de toute chose périphérique. Là, on a un peu l'impression qu'il s'est dit, ok, je fais tout d'un coup, je me débarrasse de tout et en avant marche. C'est dommage. Ouais.
Bon, c'est étonnant parce que si vous vous souvenez, Emmanuel Macron avait annoncé qu'il présenterait la photo de McFly et Carlito lors de, d'une allocution ou d'une interview du 14 juillet. On ne l'a pas eu puisqu'on a eu, l'intervention du 12 juillet. Et ce qui était étonnant, c'est que tout le monde avait oublié ça et qu'il ressorte ça maintenant. Bon, c'est le genre, je n'oublie aucune de mes promesses, y compris celle-là. C'est quand même étonnant.
Pour conclure sur ce sujet d'étonnement, je vous propose de réécouter ce que Gilles Gansman nous a proposé dans le zapping ce matin, à savoir la rentrée du fils du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui lui aussi communique sur TikTok. Si vous ne l'avez pas entendu, écoutez. Là aussi, on peut s'interroger sur l'utilité de cette com.
Tu vas bien, mon bonhomme ?
Oui.
Pareil pour la rentrée ?
Ouais.
On a tout, là, les cahiers, les crayons, le sac, tout est prêt ?
Tout.
Et ben, on va filer et on va les retrouver tes copains. D'accord ?
Oui.
Je te souhaite une très bonne rentrée, mon bonhomme.
Merci, papa.
Voilà.
Quel empire de spontanéité.
Il se filme parce qu'on voit évidemment pas l'enfant.
Un peu tard pour passer aux fournitures scolaires à deux minutes de l'entrée dans l'école.
Moi, je pense à son fils, là, franchement. Bonhomme.
Bonhomme, on sent qu'il ne doit pas lui parler souvent. Vous savez,
alors,
ça fait
Bruno
un peu
Le Maire a quatre garçons.
Après, pour moi, il y a un lien quand même avec le débat qu'on avait il y a quelques instants. Est-ce que les politiques, dans leur communication, ne doivent aucunement s'adapter à ces nouvelles réalités, aux réseaux sociaux? Moi, je pense pas. Parce que si on laisse, si vous voulez, ces terrains-là, TikTok, Snapchat, à des gens qui diffusent des fake news en permanence,
je suis d'accord.
Finalement, il y a une carence. Il y a une carence et le politique n'est plus audible par les cibles que c'est que ce qui pourtant sont amenés à voter, sont en train de se construire. Donc moi, je ne suis pas pour abandonner ce terrain-là. Peut-être le faire de manière plus adroite, plus intelligente.
Être mieux conseillé.
Certainement, être mieux conseillé. Mais il faut intervenir, il ne faut pas laisser des champs vides, parce qu'à ce moment-là, on laisse ces terrains-là à des prestidigitateurs. Ouais.
Je suis d'accord. Voilà. Après, ce que je trouve assez amusant, c'est qu'on a l'impression qu'il faut qu'ils jouent un rôle, les politiques.
Oui,
d'ailleurs,
ça,
Bruno Le Maire, c'est un expert là-dedans. Rappelez-vous, en 2017, ouais, je me rappelle de cette phrase qu'il avait dit à un de mes confrères, à Hugo Décrypte. Putain, c'est la classe d'être jeune. Putain, c'est la classe. Il avait voulu jouer, je sais pas, le jeune, en fait. On ne demande pas de jouer le jeune. Mélenchon, il est d'ailleurs très fort pour ça. Oui. C'est que Jean-Luc Mélenchon.
Il force pas son naturel.
Ah ouais, il force pas son naturel. Il est content, il fait lui. De temps en temps, il fait un truc un peu jeune. Ça fait rire tout le monde, et après revient sur Twitch. Voilà. Ouais. Il a été très fort là-dessus. Les autres, c'est plus compliqué. Et je suis d'accord sur le fait que, moi, je trouve que Emmanuel Macron, qui reçoit McFly Carito à l'Elysée, bah, c'est une réussite, malgré tout ce qu'on dit. C'est une réussite parce que ça fait des millions de vues, parce que bah, il communique auprès de cette cible-là, et parce que, pour le coup, il n'a pas forcé le trait. C'était Macron.
Les enfants qu'il a rencontrés lui ont dit, moi, je vous ai vu, je sais, alors, McFly et Carito, donc c'est un vecteur qui est efficace.
Non, mais il ne s'adresse pas, il est naturel quand tu parles.
Non, mais là, voilà, Exactement. D'un côté, il y a un coup de com' de la part de Macron, et il est réussi. Et de l'autre, il y a un instant de vie privée, où un père amène son gamin à l'école. Est-ce que, même s'il est ministre de l'économie, il doit mettre ça sur TikTok?
Surtout, c'est
surjoué. Le pauvre gamin, il est totalement instrumentalisé. Ouais. Et voilà, bon, c'est... Bon.
Allez, next, comme on dit, passons à autre chose. Mais
je pense à la femme de Bruno Le Maire qui est extrêmement discrète, qui ne veut jamais apparaître ni se mettre en avant et qui veut la même chose pour ses enfants. Est-ce qu'elle était vraiment d'accord avec cette petite vidéo?
Alors, on ne voit pas l'enfant, hein. Il se filme lui-même, ce qui est aussi d'un naturel absolu. Quand on a le téléphone dans la main, c'est absolument formidable. De plus en plus de Français approuvent le pass sanitaire. C'est un sondage IFOP Fiduciel pour Sud Radio. Ils étaient 57% au début du mois d'août, ils sont 64%. Même sondage dans le Figaro aujourd'hui, sondage Odoxa, 67% des Français sont pour le pass sanitaire et autres éléments intéressants. 63% des Français font confiance au gouvernement pour mener à bien la campagne de vaccination. Donc, est-ce que c'est une vraie adhésion? Est-ce que c'est un... ils se sentent obligés, mais enfin, en même temps, ils pourraient dire qu'ils sont contre et se faire vacciner? Luc Aveyron.
Oui, je pense que de toute façon, il n'y a jamais de vraie adhésion sur un dispositif comme ça. Et néanmoins, les gens y réfléchissent de manière factuelle. Fin juin, 30% de première dose. Fin août, avec l'effet de ce pass sanitaire, sa mise en œuvre, plus de 70%. Fin juin, une incertitude sur le fait de voir l'économie réouverte, le fait de pouvoir se rendre au restaurant. Aujourd'hui, alors que pourtant, il y a une situation sanitaire qui ne s'est pas enlevée, tout le monde a la possibilité de se réunir au restaurant, de reprendre sa vie d'avant, d'aller au théâtre, de contribuer à la vie économique, de participer à la vie culturelle. Donc je pense que les gens ont cette grille de lecture pragmatique où bien évidemment ils n'ont pas envie que ce dispositif soit éternel et je pense que personne ne le veut ici. Et d'ailleurs le Conseil constitutionnel dans sa décision sur le pass sanitaire l'a rappelé, ça doit être proportionné, encadré dans le temps. Mais les gens y adhèrent parce qu'ils voient bien que après avoir s'être eux-mêmes fait vacciner, qu'il n'y a pas une puce 5G qui leur a poussé dans le bras, et qu'ils ont pu reprendre leur vie, et que derrière, les conséquences sont positives pour tout le monde. On va arrêter progressivement les dépenses publiques de manière complètement... parce que c'est l'argent des Français, les 117% de dette publique du PIB. Et donc finalement, je pense que les gens ont cette grille de lecture-là, de considérer que les effets du pass sanitaire, finalement, valent le coup.
Ouais.
Virginie. Oui, il suffit de voir, effectivement, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire, que depuis son intervention du 12 juillet, les gens se sont fait vacciner. Même ceux qui, au départ, affichaient une réticence très forte, ils se sont fait vacciner. La France, qui avait totalement raté le sprint de départ, est en train de rattraper au marathon et de devenir un des pays les mieux vaccinés. On va arriver, je crois, d'ici quelques jours, à 50 millions de vaccinés. C'est un véritable succès. Et je le redis, pardonnez-moi ceux qui écoutent les journaleux, ce ceux qui sont actuellement à l'hôpital, ce sont des gens non vaccinés ou des gens vaccinés qui ont des comorbidités, le diabète, insuffisance respiratoire, enfin je ne vais pas refaire toute la liste. Mais si vous êtes en bonne santé et que vous êtes vacciné, vous n'avez aucune chance de vous retrouver en réanimation. Aucune. Mmh. Il faut vraiment le dire une bonne fois pour toutes parce que c'est la vérité. Alors, et je ne suis pas de mèche avec les labos et je ne défends aucune thèse particulière.
Alors appelez-nous, hein, 0826 300 300. N'insultez pas parce que le modérateur va vous censurer, oui, parce que quand on écrit « ferme ta gueule, pauvre lobotomisé », ça ne se fait pas. Donc ces gens-là sont bannis.
Pas très agréable,
on vous prévient que vous êtes bannis des réseaux d'accès à Sud Radio. Donc avant d'insulter, réfléchissez. Ce n'est pas du débat de dire « ta gueule, connasse » ou des choses comme cela. Voilà. Mais vous pouvez nous appeler, réagir. Tout le monde a la parole sur Sud Radio. Et on a un auditeur, justement, Clément, qui est en ligne avec nous. Bonjour Clément.
Oui, bonjour, merci de me recevoir sur le plateau, là, sur la radio, sur Sud Radio. Merci beaucoup.
Ben non, on vous écoute. Donc vous êtes contre le pass sanitaire?
Exactement. Donc j'habite près d'Agen et je participe aux manifestations chaque semaine, chaque samedi. Mmh. Voilà, parce que je suis contre ce pass sanitaire. Et c'est surtout que je suis choqué. Et je suis perdu un petit peu par rapport là depuis un an et demi ce qui nous arrive là le Covid. Je comprends pas. Voilà, je comprends pas la position du gouvernement. Et c'est pour ça que je suis inquiet. Hein. Je suis un citoyen français. J'ai 3 enfants. J'ai ma femme qui au 15 septembre, on ne sait pas comment ça va se passer. Elle refuse de se faire vacciner.
Elle travaille dans quel secteur ?
Elle travaille dans l'aide à domicile. Elle travaille en tant qu'assistante de vie.
Mais pour quelle raison vous ne voulez pas être vaccinée ?
Par principe de précaution en fait et par rapport au rapport bénéfice-risque. J'ai moins de 40 ans. Ma femme, on est mes enfants entre 17 et 10 ans. Et je suis pas convaincu que le vaccin, au regard de ce qui se passe, c'est un petit peu. J'essaie de suivre un petit peu les médias, et je suis pas convaincu. J'ai pas confiance en fait dans la protection du vaccin contre la contamination, contre la propagation. Je suis pas sûr qu'en me faisant vacciner, je ne propage pas le virus ou que je
ne sois pas moi-même.
Vous pouvez le propager, on répète toujours un peu la même chose des dizaines de fois. Vous pouvez le propager
mais
si vous êtes
dose.
Mais vous êtes moins, c'est moins virulent et c'est entre 8, 10, 12 fois moins contaminant. Et vous voyez régulièrement des médecins, encore une fois, qui publient les statistiques dans les hôpitaux avec des petits bonshommes. Ceux qui sont en réa sont des gens non vaccinés.
Même auprès des médecins, il y a des médecins qui ont des sons dissidents
est-ce que vous avez entendu des médecins vous dire non, ne vous faites pas vacciner, c'est dangereux.
Il y a 90% des médecins qui sont vaccinés aujourd'hui.
Par contre, ce que j'entends, c'est le questionnement. On n'est pas sûr, on ne sait pas. Moi, ce que je vous ai entendu dire, m'assurer que la majorité des personnes qui sont 80% sont hospitalisées en ce moment à cause du Covid, ne sont des personnes non vaccinées.
Ouais.
Et j'ai l'impression que c'est quand même une exclusivité en France, parce que quand on regarde en Israël, par exemple...
Mais c'est pareil, il y a arguments. Toujours...
J'entends ce que vous dites. Moi, Clément, d'abord, j'entends ce que vous dites et je comprends que vous soyez perdus, parce qu'en fait, on est tous perdus depuis 2 ans. Vous n'êtes pas le seul. Qu'on se soit fait vacciner ou pas vacciner, on est tous perdus. Et il semblerait que le vaccin, et je ne suis pas là pour vous convaincre du tout, hein, je vous dis juste que mon avis, je vous donne mon avis, il semblerait que le vaccin soit le meilleur chemin pour essayer de sortir de là. Maintenant, en Israël, ce qui se passe, c'est que effectivement, c'est en train de remonter. En effet, les chiffres sont en train de remonter. C'est pour ça qu'ils proposent une troisième dose. Ce qu'il faut se dire, c'est que ce qui se passe en Israël, c'est toujours en avance sur ce qui se passe dans le reste du monde. Donc peut-être que bientôt, on nous proposera une troisième dose, mais on n'en est pas sûr. On est sûr de rien dans cette crise. On est juste sûr d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, les chiffres sont en train de s'inverser en termes de contamination. Vous regardez, encore hier, il y a près de 5 à 6 000 contaminations en moins que par rapport à la veille. Mais on n'est pas sûr que ça reparte pas là-haut, c'est certain. Mais en tout cas, le vaccin, vous pouvez pas dire qu'il n'a pas un effet sur les réanimations, même sur les contaminations en tant que telles.
C'est les chiffres sont maîtrisés. Imaginons ce qui se serait passé avec cette quatrième vague si personne n'avait été vacciné. C'est Il y aurait eu beaucoup plus de morts.
Et peut-être vous évoquiez, Clément, tout d'abord, merci d'exposer sereinement vos doutes, parce que parfois, ça manque.
Oui. Et
merci beaucoup.
C'est
bien complètement.
Mais on a tous douté,
vous avez évoqué un moment le terme de rapport bénéfice-risque. Ouais. Évidemment, ce rapport-là, et je crois que c'est assez installé objectivement dans la réalité scientifique, il est immensément en faveur de la vaccination. Ce que vous évoquez, la faculté de rester contagieux quand on est vacciné, ça c'est certain et personne ne la remet en cause en réalité. Non. Quand on se vaccine, ce n'est pas pour stopper la diffusion du virus, c'est pour protéger tout type de personnes contre les formes graves. Et c'est ça. Et contre les hospitalisations, c'est pour ça que, comme l'a rappelé Virginie, il y a un nombre très important de personnes qui sont en réanimation, qui ne sont pas vaccinées. Deuxième élément peut-être... le vaccin demeure parfois inefficace pour des personnes, effectivement. Et c'est le cas en Israël, c'est pour ça que ça augmente.
Qui ont des comorbidités.
Qui ont des comorbidités ou qui sont immunodéprimés du fait de leur âge avancé. Et donc, il ne faut pas considérer, et c'est malhonnête les personnes qui disent ça, mais objectivement, il n'y en a pas tant que ça, qui disent « la vaccination règle tout ». En revanche, il est aussi malhonnête de dire « la vaccination ne règle rien ». Non, la réalité scientifique, elle est là, elle est présente, et elle permet effectivement aux personnes cibles comme votre âge en atteste, c'est-à-dire 40 ans, d'être prévenu contre les formes les plus graves de la maladie.
Monsieur, est-ce que je peux vous poser une question ? Vous dites que vous avez...
Après, j'aimerais pouvoir m'exprimer. Hein,
bien sûr.
Alors attendez, on va marquer une pause, vous aurez le temps après, on vous garde en ligne avec nous. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio 10h midi, débat.
Avec vous sur Sud Radio, le pass sanitaire nous a emmené sur la vaccination avec Clément. Donc Clément, vous dites que vous n'êtes pas vacciné, que vous ne voulez pas vous faire vacciner, votre femme non plus, elle risque de perdre son travail. Alors allez-y, vous vouliez dire
alors,
que...
Alors voilà, je vais profiter justement que je suis à l'antenne pour parler de mes peurs. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont dans cette situation. J'ai peur, on a peur de la suite, il y a cette échéance du 15 septembre, cette obligation vaccinale, et j'avoue que j'entendais ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au fait que les chiffres des vaccinés au niveau européen, pour les Français, ça va être... Voilà, les chiffres étaient de remonter cet été.
Hein, oui, depuis deux mois.
Au nombre de vaccinés, depuis deux mois. Mais ce que je trouve, moi, c'est que il n'y a pas d'obligation vaccinale pour l'ensemble de la population. C'est ce que dit le gouvernement. Mais on est obligé, en fait.
C'est ça a donné le pass sanitaire. Parce qu'effectivement, c'était une usine à gaz et une aberration sur l'utilisation.
C'est une obligation sans pouvoir
déguisée.
Le dire.
Oui, vous avez raison.
C'est une obligation déguisée. Et en fait, c'est réel que, vraiment, moi, je suis issu du peuple, et on est inquiet. Et c'est pour ça qu'à Agen, on manifeste, et qu'en France, on manifeste. Moi, en tout cas, je parle pour moi, mais je suis parce qu'on a peur. On a peur. J'ai plus peur de ces mesures que je juge et que je ressens comme liberticide que par rapport à cette maladie qui, au final, ne tue pas tant que ça. Je dis qu'elle tue, la maladie existe, mais au regard des autres maladies telles que les maladies cardiovasculaires ou que les cancers, le taux de mortalité, il est quand même relativement bas. Et est-ce que moi, je suis prêt à accepter de perdre ma liberté pour une maladie qui ne tue pas tant que ça. Donc c'est ça en fait qui me dérange, j'ai pas envie que ma fille de 10 ans ou que mes fils de 14 et 17 ans ils se fassent vacciner parce que par rapport au bénéfice risque, je sais que ils ont pas de danger et par rapport à la maladie en elle-même, il y a un des traitements. Donc avant de me faire vacciner, j'ai envie d'attendre les traitements. Mon père a eu le Covid. Il a 71 ans. Et il a réussi à se fournir de l'ivermectine et il a réussi à se soigner.
Donc, vous savez, j'ai des amis qui ont eu le Covid et qui, au bout de 10 jours, ont guéri, dites donc. C'est ça, oui, le, oui, c'est, oui. Ça le truc. Bah, c'est ça le truc. C'est ça le truc que le professeur Raoult a jamais prouvé. C'est-à-dire que la maladie, on peut guérir tout seul sans médicaments. Donc personne n'a prouvé, et les études le disent, que l'ivermectine avait un effet. Sinon, je pense qu'il y aurait beaucoup de pays qui l'utiliseraient. Or, ce n'est pas
l'hydroxychloroquine, enfin l'ivermectine, enfin les dérivés ont été beaucoup utilisés au Brésil. Et on voit bien que malheureusement, ça n'a pas marché. Quoi, hein. Ça dépend. Il y a des profils génétiques. Effectivement, on est très inégaux. Et si votre père appartient au Rhésus O, comme moi, ben il est ultra protégé.
Est-ce que je peux vraiment juste exprimer le fait que je ressens qu'il n'y a pas, on n'a pas le droit d'avoir un avis différent.
Si. Ah non, ça, on n'a pas dit ça. Non, pas
sur cette radio. Là, en général, j'ai l'impression que moi, j'ai appris à l'école de la République qu'il y avait une thèse, une antithèse. Je pense que même au niveau dans le domaine de la science,
il n'y a pas de vérité
absolue.
Vous le dites, vous allez manifester tous les samedis. Il y a des débats, on écoute. On échange, on a le droit d'avoir un avis différent, on a le droit de ne pas être d'accord avec vous aussi.
Mais moi, Clément, ce qui m'étonne, c'est que la science n'est pas une opinion, la santé n'est pas une opinion. Genre, quand vous avez un cancer, vous faites une chimiothérapie, à moins que vous soyez effectivement adepte des plantes et de l'homéopathie, mais globalement, vous faites confiance à la médecine. Genre, la question ne se pose pas. C'est pourquoi sur ce vaccin, alors qu'il y a eu de la pédagogie qui a été faite, qu'on vous a expliqué ce qu'était l'ARN messager, il y a des vaccins qui sont sans ARN messager, c'est devenu une question politique et c'est est-ce qu'on a une opinion? Oui, vous pouvez refuser de vous faire soigner, c'est sûr, mais...
Et je trouve que
alors,
c'est un...
Lucas, vous voulez
oui,
réagir.
Je trouve que c'est intéressant et j'aimerais avoir votre réaction là-dessus, Clément, parce qu'il y a un peu deux débats qui s'entrechoquent et qui finalement se confondent, alors que pour moi, il faut bien les distinguer. Sur la pertinence du pass sanitaire, pour moi, on peut débattre de tout. Sur est-ce que le dispositif est pertinent? Est-ce que on n'aurait pas dû avoir une obligation vaccinale? Ou à l'inverse, est-ce qu'il n'aurait fallu avoir aucune sorte d'incitation? Ça, le débat est libre et finalement, on peut se faire une opinion. En revanche, sur l'efficacité, le bénéfice-risque que je vous exposais tout à l'heure, là, à mon sens, il n'y a pas lieu, si vous voulez, de créer une sorte de débat dans lequel tous les opinions se valent, parce qu'il y a des réalités chiffrées, il y a des réalités documentées, et ça, il est difficile de le remettre en question comme si, finalement, c'était une opinion d'un responsable politique. Non, c'est des données qui sont enregistrées, qui sont validées par des agences de notation indépendantes, par des agences étatiques, il n'y a pas lieu de les remettre en question.
Je vous ai allé sur Twitter voir le compte du docteur Clarisse Odigier-Valette, elle est pneumologue à l'hôpital de Toulon, et elle donne des chiffres, 80 patients oxygéno-dépendants avec une forme grave respiratoire, 75% n'étaient pas vaccinés, soit 94%. Elle donne des chiffres qui sont concrets, elle ne ment pas, c'est ce qu'elle vit. 20 cas entre 18 et 45 ans, soit 25% non vaccinés. Les cas entre 46 et 60 ans, non vaccinés. Elle donne des chiffres qui sont ce qu'il y a. Ceux qui étaient vaccinés, les 5 qui étaient vaccinés, 79 ans avec un lupus, 79 ans avec une chimio, un autre avec une leucémie.
Et la comorbidité, oui.
Avec ses comorbidités. Et elle dit la moitié avait moins de 35 ans, aucune comorbidité, ont été hospitalisés. Enfin, allez voir, elle s'appelle Clarisse Odigier-Valette. On va essayer de l'inviter éventuellement pour qu'elle nous raconte ce qu'elle vit. C'est du concret, c'est du quotidien, elle ne ment pas, elle n'est pas manipulée, elle n'est pas payée par les labos. Elle a des morts devant elle, elle a des morts. On ne peut pas dire plus.
Moi, je voulais poser une petite question à Clément. Vous avez évoqué vos enfants. Est-ce que vous les avez fait vacciner pour les inscrire à la crèche et à l'école? Est-ce que vous avez redouté les vaccins qui leur ont été inoculés? Et est-ce que vous faites une différence visiblement entre le vaccin et le pass sanitaire? Mais pourquoi cette prévention contre ce vaccin alors qu'en France, il y a 11 vaccins obligatoires pour les enfants et que tous les parents, en général, souscrivent à cette obligation?
11 vaccins. Je crois que depuis 2018, ils ne sont plus obligatoires, ces 11 vaccins.
Il y en a même qui ont été rajoutés sous Agnès Buzyn.
Ils viennent d'être... Le chiffre 11 est le chiffre officiel.
Alors, juste, moi, juste que je... Ce que je vais arriver à dire, juste, c'est que je ne suis pas contre le vaccin même, contre le Covid.
C'est ça.
C'est juste le principe un petit peu de précaution. Et vraiment, je ne pense pas... Comment expliquer? Je ne pense pas que ce soit la bonne stratégie du gouvernement. Voilà. Que de l'imposer. Moi, je dis, j'ai pas envie de perdre ma liberté. J'ai l'impression, en fait, de perdre ma liberté avec ce pass sanitaire. C'est pour ça. Non, mais c'est pour ça que je manifeste. C'est pas contre le vaccin. C'est pas contre le vaccin, c'est contre, pour moi, selon moi, la perte de la liberté de choisir.
Mais vous pouvez vous faire vacciner, être contre le pass sanitaire.
On est d'accord. Il est obligé, il est obligatoire ce vaccin. Là, dans les faits. Non, pas dans la forme, mais dans les faits.
C'est vrai, c'est vrai. Il est.
Ah bah, sinon, on peut pas effectivement aller au restaurant. Et ça, c'est clair. C'est clair qu'il y a.
Et là, c'est fini. Mais Clément, c'est intéressant de dialoguer avec vous et on vous rappellera pour continuer. Et au contraire, merci, oui, de poser vos questions et de nous dire ce que vous ressentez parce qu'il n'y a pas de stigmatisation. Bien au contraire. Merci à vous. Très bonne journée sur Sud Radio.